presque rien sur presque tout, édition spéciale. Une émission de Patrick Ferlat.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous, édition spéciale en hommage au grand photographe français Willy Ronis, disparu ce week-end à l'âge de 99 ans. Willy Ronis, que nous avions eu le privilège de rencontrer chez lui dans son petit appartement du 11e arrondissement de Paris. Paris, vous le savez, que Willy Ronis n'avait cessé d'arpenter en piéton solitaire pour fixer les images qui ont fait le tour du monde en noir et blanc. Souvenez-vous de ce petit garçon émerveillé face à une bicyclette, de ce couple d'amoureux du côté de la Bastille, ou encore de cet enfant devant une boulangerie tenant dans ses bras une si grande baguette de pain. Une photographie que l'on a dit humaniste, regard porté aux petites gens, aux mouvements de foule, des événements du Front populaire en 1936, la joie simple des fêtes populaires. Avec Robert Doisneau et Édouard Bouba, Willy Ronis, qui a fêté ses 99 ans le 14 août dernier, et s'est encore rendu cet été à Arles pour l'hommage que lui ont rendu les rencontres photographiques, Willy Ronis fit partie de la célèbre agence RAFO et collabora durant de longues années avec des magazines prestigieux tels que Life et Time pour quitter la photographie en 2001. Au moment de notre rencontre, au mois de mars, sortait de presse aux éditions Terre Bleue, préface de Philippe Solers, Les Nus Secrets de Willy Ronis, des photographies qui dormaient quelque part dans son appartement. Des nus dans le célèbre nu provençal, icône moderne, à sa femme Marianne à Gordes dans le sud de la France. Alors en hommage à cet artisan, à la mémoire visuelle si vive, on va l'entendre, si intacte, et qui fit de la photographie le tissu de sa vie, je vous invite à redécouvrir l'entretien qu'il nous avait à la fois si gentiment et si fraternellement accordé, après avoir pris des nouvelles de sa santé, une santé fragile. J'avais demandé à Willy Ronis comment, à presque 100 ans, lui apparaissait la vie aujourd'hui.
Vous savez, ça a été continu, le passage du passé au présent. Par conséquent, naturellement, il y a eu des secousses dans la vie générale, dans la situation historique, etc. Mais enfin, quand on est assez solide et puis que on a un certain regard un peu distancé sur les événements, eh bien, ça se supporte. Et j'ai encore une certaine qualité de vie, malgré le fait que je suis plus souvent assis que debout.
La photographie témoigne de ces secousses dont vous parlez ?
Elle témoigne, mais pas directement, parce que je n'ai pas été un photographe de la presse quotidienne. J'étais illustrateur et reporter. Il y a donc une certaine distance. Je n'étais pas accroché à l'actualité continue. Mais il est certain que soi-même, on ressent la conséquence des événements mondiaux et bien sûr, on s'adapte.
Quels sont les événements qui vous ont particulièrement marqué ?
J'ai vécu deux guerres. Évidemment, j'étais tout petit pendant la première, mais je m'en souviens encore. Je me souviens quand nous descendions dans la cave, pendant les alertes, j'ai entendu les bombardements de mon sous-sol. Et puis alors, bien sûr, il y a eu la dernière grande guerre à laquelle j'ai participé, comme tous mes concitoyens. La vie est plus forte que tout. Hein. J'ai eu la chance de n'être ni blessé, ni prisonnier. Par conséquent, j'ai traversé tout ça presque indemne.
Quel souvenir est-ce que vous conservez de la période d'occupation ? Vous étiez, je crois, à une époque régisseur dans une troupe de théâtre.
Oui, dans le Midi, puisque pour raison raciale, j'avais estimé plus prudent de quitter la zone occupée. Et donc, j'ai fait des petits boulots dans le Sud, dont celui que vous venez de mentionner, et d'autres aussi. J'ai fait de la peinture sur bijoux. La femme que j'ai épousée par la suite peignait des petits bijoux à l'huile et elle avait besoin d'un associé. Ben, j'ai été celui-là, et après la guerre, nous nous sommes mariés.
Où vous étiez-vous rencontrés ?
Ah ben, nous nous connaissions déjà de Paris, puisque le mari qu'elle avait à ce moment-là avait été un copain du lycée. Et comme elle faisait du dessin publicitaire, il lui avait dit, tu sais, j'ai un copain du lycée qui est photographe, qui a déjà des archives assez conséquentes. Si tu as besoin de certains thèmes, tu peux lui téléphoner et aller le voir et lui emprunter des photographies qui t'aideront pour tes dessins. Et c'est comme ça que nous nous étions connus avant la guerre. Et nous nous sommes retrouvés dans le Midi, puisque lui avait besoin de s'éloigner de la zone occupée pour les mêmes raisons que moi-même. Il est descendu avec sa femme et leur petit garçon de 2 ans dans le Midi, et nous nous sommes rencontrés par hasard sur un quai de chemin de fer. Et nous nous sommes allés de loin et nous nous sommes donc rapprochés. Et on s'est naturellement posé la même question, qu'est-ce que vous foutez là ? Ben, j'ai dit, je suis là pour les mêmes raisons que vous. Et qu'est-ce que tu fais ? Ben, je dis, je fais des petits boulots. Effectivement, à ce moment-là, j'étais tireur chez un photographe portraitiste de Toulon. Et je m'y ennuyais ferme. Ils m'ont dit, est-ce que tu sais dessiner ? J'ai dit oui. Est-ce que tu sais peindre ? Alors je dis là, je suis plus réservé. Alors le mari me dit, ben écoute, on va t'expliquer. Ma femme crée des bijoux peints à l'huile, des petits bijoux sur cuivre, et ça marche très bien. Et elle ne peut pas répondre à la demande de son représentant. Il faudrait que tu fasses un décès, et si tu veux, tu seras son associé. Ah ben alors j'ai dit oui, ben je viens dans une semaine, pendant le week-end, on fera un essai. L'essai a été concluant, et je suis devenu l'associé de cette jeune femme. Entre-temps, bon, le temps est passé, la libération est venue. Nous sommes les uns les autres entrés à Paris. Il y a eu un bouleversement dans le ménage. Il s'est éloigné de sa femme. Nous avons commencé à travailler ensemble. Le petit garçon était un enfant que j'aimais énormément. Et j'ai épousé Marianne. En fait, c'était surtout le petit garçon que j'épousais, tellement j'aimais ce petit garçon. Qui malheureusement, accidentellement, est mort en 88, en deltaplane. C'était un grand sportif et bon. Et j'ai perdu ma femme en 91.
À propos de deltaplane, je crois savoir qu'à 82 ans, vous avez fait un saut en parachute.
J'en ai fait 5. Oui, jusqu'à 90 ans à peu près. J'ai fait 5 sauts en parachute.
Pourquoi cette envie ?
D'abord, l'aviation, j'ai toujours aimé. Ensuite, il y avait le souvenir de Vincent, mon fils, qui s'était tué en deltaplane. Moi, je n'avais pas envie de faire du deltaplane. Je savais que c'était un truc très dangereux. Mais j'ai vu, aux actualités télévisées, une petite séquence sur des baptêmes de parachutes pas très loin de Paris. Et ça m'a donné l'idée d'essayer moi-même. Et j'en ai donc fait 5 jusqu'à 90 ans à peu près.
Villéronis, vous vous souvenez du jour où vous êtes tombé amoureux de Marianne, qui est le nu provençal que tout le monde connaît ?
Oui. En fait... Ça n'a pas été une fulgurance. Je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure que c'était surtout du petit garçon que je m'étais épris. Enfin, ce n'était plus un bébé, il avait 2 ans. Mais il était tellement adorable Et puis, ben, je savais, par les actualités que je vivais près de ces gens, ben, qu'il n'avait plus de père, puisque son père avait quitté sa femme. Et je me dis, ce petit garçon, c'est ce que j'aurais voulu avoir si j'avais épousé la femme de ma vie. Mais je n'avais pas trouvé la femme de ma vie, mais j'avais trouvé l'enfant. Et c'est comme ça, c'est plutôt par attirance pour ce petit garçon que j'avais envie d'élever, que j'ai épousé sa mère. Mais ça a été quand même une union très bien, très bien.
Vous admiriez beaucoup votre père. Votre père a beaucoup compté dans votre vie.
J'admirais mon père surtout pour ses qualités de cœur. C'était un homme d'une bonté, d'une générosité et d'une gaieté, quoi qu'il se passe dans la vie quotidienne, qui m'avait complètement bouleversé. Et je l'aimais, c'était lui ma propre mère, parce que ma mère, je ne m'entendais pas avec elle. Mon père, ça a été ma mère véritable. Et ben, je l'ai eu jusqu'en 36, malheureusement. À l'âge de 60 ans, 61 ans, il est mort d'un cancer. Et ça a été un drame pour moi. Je ne peux pas dire que c'est lui qui m'ait appris la photo. Encore que, pratiquement, j'ai beaucoup appris tout seul dans son laboratoire. Puisqu'il était photographe et qu'il avait un atelier de photos de quartier. Je trouvais ça un peu ringard, ce qui sortait de ce studio. Mais il y avait quand même un laboratoire, et ça m'intéressait beaucoup. J'ai donc appris dans son atelier, d'abord la prise de vue, de portrait, puisqu'il me déléguait, j'avais du goût pour la photo, il me déléguait quelquefois pour faire des portraits simples, des identités, et puis développer, donc... me servir des produits du laboratoire. On les faisait soi-même, les produits du laboratoire, à ce moment-là. On n'achetait pas ça en flacon. Donc j'ai appris à développer, à fixer, laver, tirer, agrandir, tout ça. Et puis, quand il est mort, en 36, j'ai été contraint d'entrer dans cet atelier et de prendre sa suite, parce que non, je vous demande pardon. C'est en rentrant du service que ça s'est passé. En rentrant du service, c'était en 32, nous étions en pleine dépression économique, comme vous le savez. Hein. La tempête de 1929 aux États-Unis nous avait atteints en Europe. Et mon père avait besoin de moi dans son studio, atelier et prise de vue. Et j'étais donc entré l'aider pour faire ce travail qui me déplaisait beaucoup. Ce portrait de quartier ringard, donc je ne l'aimais pas du tout. Mais enfin, c'était une nécessité familiale et économique. J'ai donc fait ça pendant ces 4 ans de survie. Et quand il est mort, j'ai tout plaqué. Je suis parti, j'avais un appareil d'amateur. Eh bien, je me suis lancé dans Paris et... je suis arrivé à vivre et à soutenir ma mère et un petit frère jusqu'à la guerre. Et quand je suis rentré de la guerre, après ma démobilisation, alors là, je suis véritablement entré dans le métier. Il y avait un énorme besoin d'image à ce moment-là, parce que la presse qui avait été occupée, bien sûr... Elle s'est sabordée où elle a été défaite. Et toute une série d'hebdo et de mensuels sont nés et avaient besoin d'images. Et là, pendant les années 50, ça a été un âge d'or des photographes.
À l'époque, lorsque vous avez dû reprendre l'atelier de votre père, vous aviez d'autres rêves. La musique, par exemple,
oui,
a été très importante dans votre vie.
Pour moi, c'était majeur. Mais enfin, il n'était plus question. il n'était plus question, parce que d'abord, il m'aurait fallu aussi payer l'enseignement qui me manquait pour être compositeur, puisque c'est cela que je voulais. C'était pas le violon. Le violon, bon, c'était un vœu de ma mère, j'avais accepté, mais l'instrument, non. C'est le piano que j'aurais aimé jouer. Bon, elle m'a fait jouer du violon. Fils obéissant, j'avais accédé. Mais enfin, je m'étais rendu compte que c'était pas ça qui m'intéressait. Mais l'écriture. Donc, il aurait fallu que je poursuive des études, mais je n'ai pas pu. C'est pour cela que je suis rentré dans l'atelier de mon père, qui lui avait besoin d'aide, puisque sa santé était fléchissante. Et comme il n'avait pas les moyens à cette époque, en 32, de payer un ouvrier photographe sachant la prise de vue, la retouche et tout cela, ben il m'a demandé de venir l'aider. Et c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans.
C'est votre mère, je crois, qui vous a emmené, vous aviez 7-8 ans, assisté à un concert Debussy.
C'est exact. Elle m'emmenait le dimanche, souvent, écouter des concerts symphoniques. Padeloup, L'Amoureux, Colonne. Et elle m'avait amené comme ça un dimanche écouter un concert. Et là, il s'est produit quelque chose qui a été assez important. Je me suis senti mal pendant un morceau, très mal, au point que ma mère a dû m'emmener dehors pour me faire prendre l'air. J'avais de la fièvre. Elle m'a ramené à la maison et elle m'a demandé « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je lui ai dit « Mais c'est la musique, maman. C'est ce que j'ai entendu, là, à la fin du concert. » Or, elle a compris que jusque-là, elle m'avait fait écouter de la musique classique. Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Tchaïkovski, mais... Ce jour-là, il y avait Debussy et Ravel. Il est même possible qu'il y ait eu du Béla Bartok. Et moi, je n'avais jamais entendu ça. Ce qui fait que ça m'a fait un choc. Et ça m'a déstabilisé complètement. Elle m'a couché, j'avais de la fièvre. Et bien, je m'en suis sorti, mais ça m'avait complètement déstabilisé dans... ma petite culture classique musicale. Thank you.
Un extrait du Quatuor à cordes de Debussy et la voix retrouvée, je vous le rappelle aujourd'hui, du photographe Villironis qui nous a quittés ce week-end. Entretien qu'il nous avait accordé au mois de mars de cette année. Villironis, la sortie de presse aux éditions Terre Bleue de Nus Inédits. Alors nous en parlerons plus tard, mais quelle place occupait d'abord la musique dans sa vie ?
Oh ben, je suis mélomane, pas plus, puisque j'ai mené quand même une carrière de photographe et très heureuse. Enfin, avec les pépins qui arrivent dans toute activité professionnelle libérale. Mais j'ai quand même été content de faire ce métier où une certaine créativité était possible, comme ça aurait été sans doute si j'avais pu poursuivre une carrière musicale.
Vous avez toujours été très attaché à Paris.
Ben, je suis natif de cette capitale. Je m'y suis énormément promené.
Vous avez beaucoup marché.
Oh oui, j'ai énormément marché dans ma vie. Alors, si je ne peux plus le faire maintenant, ben, je l'assume. Mais j'ai énormément marché dans Paris et j'ai fait des photos par là même. Et puis ensuite, j'ai marché ailleurs, puisque j'ai un peu voyagé aussi. Mais je n'ai pas été un globe-trotter photographe. J'ai été dans les pays d'Europe, j'ai été aussi aux États-Unis, j'ai été à La Réunion, j'ai été en Europe, dans plusieurs pays d'Europe, j'ai été en URSS. Enfin, j'ai fait des photos dans pas mal de pays, mais c'est surtout Paris et la France qui ont été mes terrains d'activité.
Vous dites parfois dans les entretiens, Villironis, que vous avez fait de la photographie buissonnière.
Oui, buissonnière, car j'ai travaillé plus de mon propre chef que par commande. Et dans mes différents livres, puisque j'en ai sorti beaucoup, il y a une majorité de photos qui n'ont pas été des commandes. Qui ont été des photos au gré de mes déplacements.
Le Petit Parisien, par exemple, ou Les Amoureux de la Bastille, sont des photos...
Ah, tout à fait, de hasard, absolument. Le Petit Parisien, je l'ai vu sortir à midi d'une boulangerie. Il avait fait la queue avec sa grand-mère. Il était tellement mignon avec son pain immense que je demandais à sa grand-mère l'autorisation de le photographier. Et je l'ai pris comme ça, sortant en courant de la... Et Les Amoureux de la Bastille, j'aimais beaucoup monter en haut de la colonne de la Bastille. On y montait par un escalier hélicoïdal, ce qu'on ne peut plus faire depuis une trentaine d'années. Mais en ce temps-là, c'était possible. C'était une belle journée avec une belle lumière. J'avais décidé donc d'y monter une fois de plus. Et arrivé en haut, généralement j'étais seul. Mais arrivé en haut, j'ai vu ce couple qui regardait vers l'ouest, vers la tour Eiffel, vers Notre-Dame. Et j'ai trouvé ça tellement joli que, sans me manifester et sans qu'ils s'en aperçoivent, je les ai photographiés. Et je suis descendu, ils se sont rendus compte de rien. Et bien longtemps après, puisque c'était en 57, ça, bien longtemps après, en 88, donc 31 ans après, je faisais une exposition dans une galerie, pas loin de la Bastille, rue du Faubourg Saint-Antoine, et un monsieur est venu avec un livre de moi sous le bras, en me demandant de le signer. Bien sûr que j'ai accédé à sa demande. Et à un moment donné, il reprend le livre et il me montre une photo, Les Amoureux de la Bastille. Et je lui dis oui, et alors ? Ben il me dit, vous savez, je les connais. Je les connais, ils tiennent un bistrot à 300 mètres d'ici. Il suffit de traverser la place de la Bastille, et c'est à 100 mètres au début de la rue Saint-Antoine. Ah ben, je lui ai dit, écoutez, j'y vais demain. Et le lendemain, j'ai été faire la connaissance de ce couple, qui était donc possesseur de ce bar-tabac, avec terrasse, parce que c'est un coin où il y avait de la place. Au début de la rue Saint-Antoine, il y a une petite place triangulaire avec une statue de Beaumarchais et quelques arbres. Et là, il y a une petite place avec une terrasse. Et ils tenaient ce bistrot. J'ai été faire leur connaissance. Ils avaient la photographie affichée, encadrée, parce qu'elle était parue en poster, comme ça. Je leur ai dit, ben c'est moi qui ai fait ça. Alors on est devenus très copains. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés.
Ma déesse, si c'est lisse, on se lasse. Les strass et les stress, j'encaisse ou j'en casse. Montre-moi encore le monde à l'envers. L'envers de ton corps me donne vertige. Sous ta peau, douce et lisse, tu me laisses entrevoir les coulisses où tout se passe. Ma miss, ma déesse, on s'enlise, on s'enlace. Traces de détresse, j'en laisse ou j'en tasse. Montre-moi encore le monde à l'envers. L'envers de ton corps me donne des vertiges. Sous ta peau, douce et lisse.
Sous ta peau, chantait Mathieu M, un choix de Nathalie Schauenberg, Villironis. Le temps passe, nous rappelle votre vieille horloge. Dans ce petit appartement de Paris, des toiles de votre femme, des livres, bien sûr. Et puis, ça me paraît assez naturel, beaucoup, beaucoup de photographies. Alors, allez contempler, que vous disent-elles aujourd'hui ?
Elles me racontent mon histoire, en effet. puisque le hasard, naturellement, a été pour beaucoup dans mes déclics. Mais c'est quand même des hasards qui ne sont pas fortuits. Ces hasards correspondaient, pour que je les traduise en images, à quelque chose qui touchait ma sensibilité ou ma curiosité. Encore que je n'ai jamais fait de photographie de choses extraordinaires. J'étais beaucoup plus attiré par le quotidien, par ce qui arrive, ce que tout le monde peut voir. C'est la vie quotidienne qui a été mon intérêt principal. Ce qui n'empêche pas que j'ai travaillé sur commande aussi. Mais voilà, c'était... Et dans mes livres, c'est principalement des photos du quotidien que j'ai insérées.
Vous avez toujours été très proche aussi des petites gens.
Oui, oui, ben je suis né dans un quartier banal, un quartier petit bourgeois, et où il y avait aussi des petites gens dans les étages supérieurs. Je les aimais bien. Je les côtoyais quand j'allais au lycée, puisque j'ai été au lycée en haut de la côte en bas de laquelle je me trouvais. J'étais sur le bas de la côte de Montmartre, la cité Condorcet où je suis né, et où je suis retourné dernièrement encore, quand je pouvais encore marcher. J'y suis retourné, rien n'avait changé. C'est extraordinaire, c'était comme une oasis préservée. Rien n'avait changé.
Et pourtant, Paris a beaucoup changé.
Oui, mais ça, c'était une cité. Les maisons, c'était des maisons petites bourgeoises qui ont été ravalées, simplement. Il n'y a pas eu de démolition, reconstruction. J'ai retrouvé... Quand j'y suis passé une fois au cours d'un reportage commandé, alors celui-là, j'y suis retourné et j'étais avec une jeune femme qui était la rédactrice de l'article projeté et je lui ai dit, tu vois, c'est au troisième là-haut, cette fenêtre-là, c'est la fenêtre de la pièce où je suis né. À ce moment-là, la fenêtre s'est ouverte. Une femme s'est penchée à la fenêtre et était étonnée de voir un monsieur âgé qui regardait sa fenêtre. Et j'ai dit, Madame, c'est dans cette chambre-là que je suis né. Ça l'a beaucoup amusée. Et elle était sur le point de partir, d'aller faire des courses peut-être. Et je l'ai vue donc sortir de la... Parce que je racontais des histoires de la cité à mon interlocutrice. Et je l'ai vu sortir, on s'est serré la main, je lui en dis un peu plus sur ma vie. J'avais vécu 26 ans là, avec mes parents. Et voilà, c'est ça la cité Condorcet.
C'est votre père, je crois, qui vous a offert votre premier appareil de photographie.
Oui, quand j'avais 15 ans et demi, il m'a offert mon premier appareil. Ça n'a pas été pour moi un éblouissement, ça a été un autre jouet. Ah, jusque-là, j'étais fou de mon mécano. Ben là, j'ai eu autre chose, et autre chose qui me rappelait en même temps l'activité de mon père. Sauf que moi, je faisais ça librement et dans les rues. Et à la campagne, évidemment. Puisque j'ai fait mon premier autoportrait à 16 ans, pendant les vacances. Voilà, c'est comme ça que je me suis mis à la photographie, comme amateur d'abord, et comme professionnel quand mon père est mort, en 36. Mon père est mort en juin 36. Ça a été un déchirement pour moi, parce que j'adorais cet homme-là. Mais en même temps, ça a été une propulsion dans la vie réelle, dans la vraie vie, puisque nous étions à peu près ruinés, 1936, c'était les années de la crise. Et non seulement je n'ai rien tiré de la vente du studio paternel et de l'atelier paternel, mais ça n'a même pas pu payer complètement les créanciers. Il fallait donc que je gagne tout de suite de quoi subvenir à nos besoins, ma mère, un petit frère et moi. Et j'y suis arrivé avec cet appareil d'abatteur que mon père m'avait offert. J'ai tiré des sonnettes partout, j'ai été dans des usines, j'ai été dans des ateliers. Et par bonheur, j'ai eu l'idée d'aller voir la SNCF pour proposer des photos que j'avais faites comme amateur en France pour l'illustration de la SNCF. J'avais pas mal de provinces françaises comme ça que j'avais photographiées. Et puis, j'avais été voir aussi le commissariat au tourisme et j'avais travaillé avec eux. Aussi avec des photos de mes archives et des commandes qu'ils m'avaient faites sur des provinces où ils étaient pauvres en images.
Vous avez conservé cet appareil de photo ?
Ah non, je l'ai jeté. Ah, j'ai aucun fétichisme pour mon matériel. Non, non. Non, c'était un appareil quand même très élémentaire. Je ne pouvais plus continuer de me servir de ça. C'était plus possible. Bon, bien sûr, j'ai des photos que je publie encore, faites avec cet appareil. Mais elles ont un caractère, le caractère un peu ancien, quoi. Des années 30. Mais j'en ai qui étaient des bonnes photos et qui font partie de mes archives.
Willy Ronis, 99 ans, chez lui, dans son appartement, au mois de mars dernier. Nous lui rendons hommage en retrouvant cet entretien, suite de cette conversation fraternelle avec Willy Ronis. Sitôt après ce flash d'information pour la route.
Infotrafic, RSR.
Sur le contournement de Genève, on roule au pas entre la jonction de Mérin et l'échangeur du Vengeron, direction de Lausanne. Deux accidents se sont produits sur ce tronçon. La voie de gauche est fermée à l'approche du premier, puis celle de droite à l'approche du second. Willy Ronis, et puis un jour, vous avez dit stop, j'arrête. C'était en 2001, une décision difficile à prendre.
Vous savez, j'ai appuyé sur le déclic pendant 75 ans. Écoutez, il n'y a pas à se plaindre. Bien sûr, j'étais attaché à mon métier et à mes appareils. Mais je sentais aussi que j'étais un peu trahi par mon âge, un peu. Je ne pouvais plus faire cette photo sur le vif qui avait été l'alpha et l'oméga de mon activité. Et que mes jambes ne me portaient plus aussi bien, que je ne pouvais plus aussi bien marcher et courir. Ben je me suis dit, ben il est temps que tu lâches ça. Tu ne quitteras pas le métier puisque tu as des archives importantes et qu'on te demandera constamment tes photos déjà parues et pas encore parues. Et c'est vrai, je suis toujours dans le métier et j'ai 98 ans. En tout cas, j'ai une vie intéressante.
98 ans, 99 ans.
99 ans au mois d'août prochain. Oui. Et peut-être 100 ans.
Willy Ronis, comment voit-on, comment voyez-vous, comment voit-on se dessiner une photo ?
Écoutez, pour mon cas, ça a été la plupart du temps très vite. D'abord parce que j'ai eu le privilège d'avoir des réactions rapides. Et dès les débuts de mon activité, même si ma pratique de la photographie nécessitait quelquefois réflexion et patience, c'est arrivé, la plupart du temps, c'était sur le champ, réagir sur le champ. Puisque j'étais un grand marcheur, que j'allais dans différents lieux, qui avait donc des sujets d'intérêt multiples. J'avais appris à réagir immédiatement. Et ça a été ça, le grand bonheur de cette activité.
Et que demandent, qu'exigent les nus ?
Oui, eh bien écoutez, je suis un enfant du Louvre. Dès l'enfance, j'ai été passionné par deux moyens d'expression, le dessin et la musique. La musique, comme vous me l'avez dit vous-même, ma mère m'emmenait au concert et puis m'a fait apprendre le violon. Le dessin, ma mère m'avait, dès l'enfance aussi, donné du papier et un crayon pour que je m'amuse à dessiner. Et une fois plus grand, adolescent, bien sûr, pendant mes études, il y avait un peu d'histoire de l'art, encore que c'était au lycée, on n'apprenait pas grand-chose sur l'histoire de l'art. Mais enfin, j'étais un enfant curieux, ma mère m'avait amené au Louvre, et quand j'étais en âge d'y aller tout seul, j'y allais tout seul, et assez souvent. Et je dessinais au Louvre, et je regardais énormément la sculpture antique, et je regardais aussi la peinture. Et la peinture, ce qui m'avait absolument fasciné, c'était d'une part les primitifs italiens, et d'autre part, les flamands du XVIIe. Parce que c'était la vie quotidienne, les flamands. Et ça m'a donné, ça me donnait le goût des scènes de la vie quotidienne. J'étais fasciné par les tavernes, les scènes de rue, les intérieurs petits bourgeois ou bourgeois. Tout ça me fascinait beaucoup et j'ai beaucoup dessiné pendant mon adolescence et mon père étant photographe et m'ayant offert à 15 ans mon premier appareil. Eh bien, la photographie m'a beaucoup plu, m'a beaucoup intéressé. Et voilà, c'est comme ça que, lorsqu'il est mort et qu'il a fallu que je subvienne aux besoins quotidiens de notre petite famille, ma mère, mon jeune frère et moi, ben je suis devenu photographe.
Et les nus ?
Ah oui, alors, revenons aux nus. Ben oui, alors, j'y venais par le musée. Puisqu'au musée, il y avait les nus antiques et il y avait les nus de la peinture classique. Tout ça, bien sûr, formait mon goût et m'apprenait l'art des attitudes. Je voyais ce qu'était la grâce des attitudes et ça m'a donné peu à peu l'idée qu'en photo, on pouvait rendre cela aussi, pour peu qu'on ait du goût. Et j'ai commencé, quand je me suis marié, à photographier ma femme. D'ailleurs, j'ai une photo de ma femme qui est connue, très connue. C'est le nu provençal que j'ai fait en 1949.
Un peu par hasard, d'ailleurs.
Tout à fait. Tout à fait. Nous étions dans cette maison qui était en moitié en ruine.
À Gordes.
À Gordes, oui, dans le Vaucluse. Nous avions acheté cette ruine dans la foulée d'un reportage que j'avais fait sur le peintre André Lhote, qui avait son école d'été à Gordes. Et mon agence, l'agence RAFO, où j'étais entré en 47, 46, m'avait dit, bah, puisque tu vas dans le midi, va donc faire un reportage à Gordes sur le peintre André Lhote. C'est ce que j'avais fait. Et Lhote, avec qui j'étais entré en contact sympa, m'avait dit, vous savez, Rodis, votre femme est peintre, m'avait dit, ben oui. Eh bien, j'ai mes élèves qui ont acheté des ruines dans ce village. Vous avez vu comme ce village est beau. Vous pouvez trouver des ruines encore pour rien, pour pas cher. Dépêchez-vous, parce que ça va changer. Ça a effectivement très beaucoup changé. Maintenant, c'est devenu un des villages les plus chers de Provence. Et nous avons acheté une ruine là-bas. Et dans cette ruine, l'après-midi, je faisais du plâtre dans mon grenier. Et à un moment donné, j'ai eu besoin d'une autre truelle que je savais être dans la caisse à outils au rez-de-chaussée. Je descends et dans ces vieilles maisons, les escaliers passaient par les chambres. Et je débouche dans la chambre à coucher. C'était donc l'après-midi, il faisait très très chaud. Ma femme était sortie de sa sieste et se rafraîchissait dans la cuvette. On allait chercher l'eau à la fontaine, hein, et on s'éclairait à la bougie et à la lampe à pétrole. Et j'ai trouvé ça tellement joli que je lui ai dit « Bouge pas !» J'ai pris l'appareil, j'ai fait 4 photos. Ça n'a pas duré une minute, et ça, c'est la meilleure des 4.
Mieux que ta bouche, mieux que tes lèvres, tes omoplates, tes yeux. Mieux que ton coude à ma fenêtre, non, Dieu n'a pas trouvé mieux. Mieux que l'agneau, que la belette, ou que tes poignets gracieux. Que le sillage d'une herse, non Dieu n'a pas trouvé mieux. Mieux qu'une brume qui se lève, mieux que le renard peureux, mieux que le fruit, mieux que son zeste, que de passer aux aveux, mieux que le goût de la noisette, mieux que de rêver à deux, que tes lettres à l'encre violette, non Dieu n'a pas trouvé mieux. Des cieux, mieux que le timon, que l'arrêt de l'imbécile heureux, que toi pour me laisser en reste, non Dieu n'a pas trouvé mieux.
Jean-Louis Murat, Dieu n'a pas trouvé mieux. Villironis, alors c'est nu, où les avez-vous réalisés? Dans cet appartement, par exemple?
Oui, je les ai réalisés un peu partout, dans mes différents appartements. Et certains en province et à l'étranger, puisque dans ce livre, il y a un nu que j'ai fait à Rome, à la Villa Médicis, et un autre que j'ai fait à New York, chez un ami qui avait un bel appartement et où le jour du vernissage de mon exposition à New York, trois femmes m'ont demandé de poser nue pour moi. Il y en a une que je n'ai pas photographiée parce qu'elle ne me plaisait pas, mais j'en ai photographié deux autres. Voilà, c'est un genre difficile, mais j'étais préparé.
Comment est-ce qu'on envisage la photographie du nu? Est-ce qu'on envisage, je ne sais, par exemple, le corps de la femme comme un paysage, par exemple?
Non, on est quand même... D'abord, on est guidé par la personne elle-même. Quand elle se tient debout et qu'elle bouge, on guide ses évolutions debout ou allongée ou assise. Et on trouve là-dedans des... Ben, il faut être un peu directeur d'acteur dans ce cas-là. Et on est guidé par le goût qu'on a acquis et développé dans les musées et en faisant du croquis de nu dans des académies. Par conséquent, bien sûr, on est aidé aussi, bien sûr, très bien par des personnes qui ont un sens inné de l'attitude et de la grâce.
Quelle signification attachez-vous au nu, Villironis ?
Le plaisir de l'œil et l'hommage à la féminité.
Question très indiscrète, Villironis, êtes-vous parfois tombé amoureux de vos modèles ?
Ça n'est pas arrivé. Je n'ai eu une aventure qu'avec un seul de mes modèles. Ça a été unique dans mes prises de vue.
On a dit parfois de vous, Villironis, photographe humaniste, à propos de ces nus, le Rodin de la photographie. Est-ce que cela vous flatte ou cela vous agace ?
Écoutez, ça peut le faire l'un ou l'autre, selon. Mais en fait, je peux dire que je suis flatté aussi. Être comparé à des grands, ben, ça fait plaisir. Hein. Mais ça ne me donne pas la grosse tête pour autant. Mais j'aime ce que je fais, j'aime mon métier. Je ne pensais pas que j'aimerais son métier dans lequel je ne suis tombé que par accident, comme je vous l'ai dit. Puisque j'étais plutôt dirigé vers un art majeur, la composition musicale. Bon, le destin en a décidé autrement. Et je ne suis pas ingrat au destin. J'ai été heureux en photographie.
Art majeur qu'est la composition, et c'est-à-dire que la photographie est un art mineur.
Il est compte. Oui, il est mineur parce qu'il ne fait pas partie des sept grands. Et puis qu'il traîne avec lui ce handicap qu'on se sert d'une mécanique. Mais on sait très bien, quand on connaît la photographie, que ce n'est pas la mécanique qui fait la photo. C'est celui qui tient la mécanique qui fait la photo. Et c'est comme un Stradivarius. Vous donnez un Stradivarius à n'importe qui, qu'est-ce qu'il va en faire ? Et vous donnez un bon appareil à n'importe qui, qu'est-ce qu'il va en faire ? C'est celui qui tient l'instrument qui fait la musique.
C'est l'œil, le cœur, la main.
L'œil, le cœur et l'intelligence.